Place publique.
Les agriculteurs se mobilisent une nouvelle fois. Une journée de contestation est organisée par Unitaire demain à Berne. Près de 10 ans après la grève du lait, presque rien n'a bougé. Le prix du litre de lait est toujours aussi bas. Et dans le même temps, la Chambre jurassienne d'agriculture a mené une action ce matin au Parlement cantonal pour attirer l'attention des députés face à la politique agricole 2022 et plus du Conseil fédéral. Celui-ci entend ouvrir les marchés à l'étranger. Nous en parlons dans un instant avec Vanessa Renfer, secrétaire de l'association Unitaire, et le président de la CJA, Philippe Jeannerat. Le CICR a toujours plus de moyens, mais son résultat mois après mois est négatif. En cause, la multiplication des conflits, notamment au Proche-Orient. Le président du Comité international de la Croix-Rouge était à Delémont hier pour présenter l'institution, son rôle, ses activités. Nous entendrons Peter Maurer en deuxième partie de Place publique. Et finalement, c'est un autre grand homme qui sera notre invité en dernière partie d'émission. Adolphe Ogui s'est reconverti en véritable orateur. L'ancien conseiller fédéral enchaîne les conférences. Hier soir à Delémont, il s'est exprimé sur le thème du leadership. Au micro de Gabriel Devecq, il nous parlera de son parcours et nous livrera des conseils pour être un bon leader en se basant sur sa propre expérience.
Jusqu'à 19h, Place publique. Audrey Fasnacht.
Bonsoir. Le monde agricole est insatisfait. La production laitière en Suisse rencontre des difficultés depuis de nombreuses années. Dernièrement, le Conseil fédéral a présenté sa politique en matière d'agriculture avec une volonté d'ouvrir les marchés dès 2022. Une mesure qui est contestée par les agriculteurs et les acteurs du milieu. Ce matin, une délégation jurassienne a cherché à sensibiliser les députés cantonaux. Demain, à Berne, une journée de mobilisation est organisée par Unitaire, l'association qui défend les exploitants agricoles et le monde rural, lancera une pétition qui demande un prix équitable du lait industriel. Pour en parler, nous sommes en direct par téléphone avec Vanessa Renfer, secrétaire de l'association Unitaire. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et nous recevons aussi le président de la Chambre jurassienne d'agriculture, Philippe Jeannerat. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Vanessa Renfer, vous êtes vous-même agricultrice à Ange, dans le canton de Neuchâtel. Vous avez cessé la production laitière cet été, tout dernièrement. La pétition qui sera lancée demain demande un prix équitable de 1 franc par litre de lait. Ça fait des années qu'on entend ce discours. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci ce sera la bonne ?
Je prétends pas forcément que cette fois-ci ce sera la bonne, mais il est hors de question d'abandonner le combat. Il est hors de question de laisser passer ça, parce que ça fait ce chiffre qu'on martèle depuis des années, il est peut-être utopiste, mais en même temps il est fondé sur des calculs tout à fait précis des stations de recherche fédérales. Et il y a aucune raison qu'on abandonne à ce stade-là.
Si on résume donc la problématique, produire aujourd'hui un litre de lait coûte 1 franc au producteur, mais ce dernier ne reçoit que 50 à 55 centimes en retour. Alors que la brique, elle est vendue en moyenne 1 franc 50 au consommateur. Le reste donc revient aux transformateurs et aux distributeurs. Alors cette problématique, elle n'est pas nouvelle. D'ailleurs, des centaines d'exploitations laitières disparaissent depuis plusieurs années et chaque année, rien n'a bougé environ en bientôt 10 ans. Vous l'avez dit, Vanessa Renfer. Alors qu'attendez-vous de cette pétition?
Alors nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir utiliser cet outil pour faire levier, non seulement auprès des politiques, parce qu'ils ont une responsabilité envers les agriculteurs, envers les familles paysannes, et aussi envers les consommateurs. Ils ont une responsabilité de faire appliquer une loi sur l'agriculture qui a été votée il y a 20 ans, qui stipule, entre autres, que les paysans doivent toucher un revenu qui est similaire au revenu des personnes vivant dans la région. Ce qui est de loin pas le cas. Actuellement, avec le prix du lait dont on parle, de 50 centimes, un paysan touche environ 5 francs de l'heure. C'est indécent, immoral. Et puis, on espère aussi qu'avec cet outil, on puisse aller auprès des grands distributeurs et puis dire, vous voyez, maintenant, on a des gens qui sont derrière nous, qui attendent que vous fassiez un geste. Voilà, c'est ça notre but.
Philippe Jeannerat, vous êtes donc le président de la Chambre jurassienne d'agriculture. Vous êtes également agriculteur à Montenol dans le Jura. Vous produisez toujours du lait, mais ce lait-là, il est destiné à la production de la tête de moine. Donc ça vaut un peu plus la peine, hein, vous me l'avez dit tout à l'heure. La CJA, elle, ne participe pas à cette mobilisation demain à Berne. Ça signifie que vous ne vous sentez pas concerné par cette situation ?
Oh non, bien au contraire. Seulement pour nous, un prix du lait à 1 franc, ça a été dit, c'est peut-être utopique, ça l'est certainement. Et aujourd'hui, on a l'impression, nous en tout cas, que c'est pas en manifestant ou par des initiatives de ce genre-là qu'on arrivera à sensibiliser et les transformateurs sur le sujet. On a essayé à l'époque, par d'autres moyens, d'avoir un meilleur prix du lait, c'est-à-dire que pour nous, ça passait par une gestion des quantités de lait. Et effectivement, lors de la création de MOU, hein, la plus grande maintenant fédération laitière, le plus grand acheteur de lait de Suisse, s'est créé il y a maintenant un peu plus d'une année, 2 ans. Et lors de sa création, on a demandé, nous, à MOU, d'avoir une gestion des quantités, justement, pour avoir un meilleur prix du lait. Et là, malheureusement, ce sont même au niveau suisse, je parle bien au niveau suisse, pas au niveau jurassien, les agriculteurs qui ont plutôt privilégié la quantité que le prix. Donc là, on doit faire acte de ça aussi. Des agriculteurs, pour nous, une majorité d'agriculteurs en Suisse, prônent plus pour livrer des quantités que pour un meilleur prix. Et il faut le savoir.
Alors vous dites, ça c'est pas de mobiliser, de manifester qui va changer les choses. Vous avez essayé via cette mesure, à travers les producteurs et la fêtière, MOU, ça n'a pas non plus forcément donné des bons résultats. Alors comment faut faire pour élever ce litre du prix du lait ?
Alors, si on avait la solution, je vous jure qu'il y a longtemps qu'on l'aurait mis en place. À notre sens, c'était une gestion des quantités. Aujourd'hui, on peut même plus en parler, puisque, comme je l'ai dit, une majorité d'agriculteurs n'en veulent même pas. Hein. Donc, actuellement, les solutions, elles sont minces, elles existent peut-être même pas, si ce n'est qu'on pourrait demander une meilleure transparence et puis une meilleure répartition des valeurs ajoutées dans les filières. Mais là, il faut que tous les gens de la chaîne jouent le jeu. Et puis on attendait beaucoup aussi d'interprofession du lait, hein, IPLA, l'aide d'industrie. Et puis là, on se rend compte que là aussi, il n'y a aucune réaction et puis on n'arrivera pas à bouger. Et maintenant, quand on voit la politique proposée par le Conseil fédéral, on en reparlera peut-être après, mais on se rend compte qu'on n'est surtout pas sur le bon chemin. Donc il faut déjà essayer de recréer quelque chose à l'interne chez nous pour sensibiliser les agriculteurs, mais pas sensibiliser le public, mais les agriculteurs au problème.
Alors Vanessa Renfer, une pétition, une manifestation, des gestes plutôt symboliques, est-ce qu'il ne faudrait pas des actions plus concrètes, comme par exemple la gestion des stocks ?
Personnellement, je trouve que c'est une action tout à fait concrète, hein, d'aller chercher le soutien des consommateurs, parce que c'est par eux que se fera aussi l'évolution. Maintenant, la gestion des quantités, ça c'est quelque chose qu'Unitaire a toujours défendu aussi. C'est une première chose. Ensuite, nous, il y a aussi une démarche sur laquelle on travaille beaucoup, qui est celle du lait équitable, qui rejoint la demande d'un prix du lait à 1 franc, c'est-à-dire de trouver des acheteurs, des distributeurs qui sont d'accord de rentrer dans ce système. Même si ça touche au début qu'une petite quantité, c'est des acheteurs qui s'engagent à payer 1 franc du litre et à avoir du lait en rayon qui est un véritable lait équitable et pas le lait équitable de Denner qui a 3 centimes de plus et qui n'a rien, mais alors absolument rien d'équitable.
Nous avons donc compris la grogne des agriculteurs face au prix du lait. Mais ce n'est pas la seule. Au début du mois, le Conseil fédéral a présenté son rapport sur la politique agricole 2022 et plus. Stratégie du gouvernement vise à ouvrir les frontières pour les produits agricoles sans tenir compte forcément du niveau des prix en Suisse. Une stratégie qui a été très mal accueillie par le monde paysan. Mais il y a 2 mois, le peuple suisse avait pourtant accepté un arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire qui inclut des relations commerciales transfrontalière. Philippe Jeannerat, la Chambre jurassienne d'agriculture, dont vous êtes le président, a largement soutenu cet article constitutionnel. Vous étiez donc en accord avec cet état de fait. Alors pourquoi aujourd'hui vous contestez la volonté du Conseil fédéral d'intensifier les accords de libre-échange, d'ouvrir les frontières et de réduire les protections de douane ?
Alors d'abord, on savait quand le contre-projet du Conseil des États a été lancé, donc qui remplaçait l'initiative sur la sécurité alimentaire, on savait qu'il pouvait y avoir différentes interprétations de ce contre-projet. À ce moment-là, l'agriculture a décidé de s'approprier ce contre-projet pour pouvoir en faire son interprétation. Nous, on a l'impression que dans la campagne, ça a été vérifié par des sondages après coup aussi, qu'une grande majorité du peuple a voté par rapport à ce que l'agriculture, en général, interprète. interpréter ce contre-projet. Et aujourd'hui, comme un boomerang, le Conseil fédéral vient avec un projet PA 2022+, qui est complètement à l'opposé de l'interprétation que nous, on a vendue, on va dire, dans les campagnes, pendant la campagne de cette votation, au peuple suisse.
Donc vous entendez parler un petit peu, vous êtes fait un peu avoir ou pris au dépourvu plutôt ?
Oh, je pense que le Conseil fédéral savait déjà ce qu'il voulait proposer avant le résultat de la votation. Maintenant, est-ce que des élus politiques, parce que pour moi les conseillers fédéraux restent des élus politiques, peuvent à ce point-là ne pas tenir compte de ce que 80% de la population vote ? Est-ce que ces gens-là ne peuvent ne pas en tenir compte ? Ça, c'est une autre question qu'il faudra qu'on leur rappelle, je pense.
Alors Vanessa Renfer, vous, je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association Unitaire, vous étiez opposée à cette votation fédérale sur la sécurité alimentaire. On peut dire que vous aviez raison de vous méfier ?
Oui, alors effectivement, à titre personnel, j'étais opposée. À titre de l'association, on avait laissé la liberté de vote, mais effectivement, pour nous, c'était assez effrayant de lire cet article, cet alinéa précis sur les relations transfrontalières et de passer se méfier de ce qui pouvait nous arriver. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop regarder vers le passé, c'est fait, c'est voté. Il faut regarder vers l'avenir. Et vers l'avenir, on a des outils qui devraient pouvoir permettre, justement, comme dit M. Jeannerat, de rappeler au Conseil fédéral quelles sont ses responsabilités.
Alors, pour rappeler ses responsabilités, la Chambre jurassienne d'agriculture a d'ailleurs mené une action ce matin devant l'hôtel du Parlement où se réunissaient les députés, dans le but de les sensibiliser à cette stratégie du Conseil fédéral. Une résolution interpartie a été signée aujourd'hui par les élus. Un message sera ainsi transmis aux Chambres fédérales et au Conseil fédéral. Selon vous, Philippe Jeannerat, quelles sont les chances que Johann Schneider-Hamann revienne en arrière ?
Alors, je pense que la stratégie, ce que le Conseil fédéral a proposé, n'est pas négociable. Donc aujourd'hui, on doit travailler, à mon sens, pour balayer complètement cette proposition et repartir avec un nouveau projet, avec tous les acteurs de l'agriculture et ce qui est tourné autour concerné. Et puis là, on pourra commencer de discuter. Et je pense qu'aujourd'hui, si les paysans suisses sont solidaires, comme ils l'ont été pour la votation pour la sécurité alimentaire, et là, je pense qu'on doit le rester, et je pense que même là, on devrait tous être d'accord, même les membres d'Unitaire devraient être d'accord avec ça, de travailler ensemble pour qu'au niveau des chambres fédérales, on refuse cette proposition du Conseil fédéral, on se remette autour de la table pour discuter vraiment du sujet.
Alors, est-ce que l'alternative, ça pourrait être, par exemple, Vanessa Renfer, l'initiative sur la souveraineté alimentaire présentée par Unitaire, justement ?
En tout cas, pour nous, c'est évident, oui. C'est vraiment quelque chose sur lequel on va vraiment se battre et essayer de faire... De montrer tous les avantages qu'elle peut apporter. Et là, j'en appelle aussi à la solidarité des paysans dans l'autre sens. Peut-être que si on se met tous derrière ce projet-là, qui est plus complet, qui est plus précis, qui est plus restrictif aussi pour certains aspects, c'est peut-être là qu'on a une chance, une voie de sortie, une voie de secours pour les paysans.
Philippe Jeannerat, pour conclure brièvement, vous voyez cette initiative de la souveraineté alimentaire comme une solution possible ?
Ça peut être une solution pour autant que si elle vient en votation, que le peuple la plébiscite comme il a plébiscité le contre-projet sur la sécurité alimentaire. Sinon, ça peut être aussi un autogol, à mon avis.
Vanessa Renfer, secrétaire chez Unitaire, Philippe Jeannerat, président de la Chambre jurassienne d'agriculture. Merci beaucoup à vous deux d'être venus en direct dans Place Publique.
Merci à vous.
Merci.
Et à 18h presque 38, nous nous penchons sur le CICR. Le président du comité international de la Croix-Rouge était à Delémont hier. Peter Maurer était l'invité du conseil consultatif des jurassiens domiciliés à l'extérieur. Et ce dernier avait mis en place une conférence pour des étudiants jurassiens et balois. Ils ont pu poser leurs questions au président du CICR après que celui-ci ait présenté l'institution, son rôle, ses activités. Peter Maurer a notamment relevé que le CICR était toujours plus sollicité en raison de l'augmentation des conflits dans le monde, particulièrement au Proche-Orient. Et il a fait par ailleurs le constat que les victimes indirectes sont toujours plus nombreuses.
Ce qui nous frappe dans les théâtres de combat, c'est qu'il est clair qu'il y a toujours des civils qui meurent à cause d'attaques directes, de bombardements, d'artillerie qui restent entre les fronts et qui sont tués. Si je regarde pourtant le nombre de gens affectés par la guerre, c'est les morts indirectes qui me font de plus en plus souci. C'est les hôpitaux qui sont détruits, les services de santé qui s'écroulent. Et donc, vous ne mourrez plus tellement d'une attaque directe, mais parce qu'il n'y a plus de médicaments, parce que les instruments médicaux sur lesquels vous dépendiez ne sont plus accessibles, les instruments de dialyse, les médicaments pour les maladies chroniques ne sont plus accessibles. Et donc, vous avez un taux de mortalité sur les maladies chroniques dans les théâtres de guerre qui dépasse les morts par effet direct de la guerre.
Vous avez rappelé que le budget du CICR a presque doublé ces 6 dernières années, mais que malgré tout, à la fin du mois, il y avait ce rapport négatif, alors qu'il y a pourtant de plus en plus de moyens. Il y a un problème, vous l'avez dit, lequel ?
Le problème reste que le nombre de conflits, la dynamique de conflits, les acteurs, leur comportement, leur violation du droit international humanitaire ont atteint un seuil qui fait que ce qu'on appelle la dynamique du conflit produit des victimes et des problèmes plus rapidement que les solutions sont accessibles. Alors on peut croître, on peut mitiger les effets de cette violence, mais si quelque part la dynamique derrière la violence reste la même, c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle le CICR s'engage aussi sur ce qu'on appelle la diplomatie humanitaire, c'est-à-dire l'engagement avec les parties au conflit, l'engagement avec les parties au conflit qui soutiennent des parties au conflit par leurs armements, par leur politique qui est tellement importante aujourd'hui. Si vous regardez une situation comme le Proche-Orient, les porteurs d'armes sur le terrain n'agissent pas seuls. Ils ont des soutiens, des apports à niveau international. C'est important qu'on s'engage avec ces gens pour les conscientiser sur les coûts énormes que ces guerres engendrent et donc sur ce clivage de plus en plus important entre besoins et capacités de réponse.
Vous avez parlé de nouvelles formes, de nouveaux engagements, de nouveaux défis pour atteindre encore plus la population. Ça, c'est aussi un moyen peut-être pour parvenir à réduire ce fossé.
Moi, je pense qu'il faut faire plus et il faut faire différent. Les deux sont des approches valables, n'est-ce pas ? Je pense qu'on fait de bonnes choses dans un humanitaire traditionnel qu'on sait faire, qu'on peut faire, et je pense qu'on a besoin de ressources pour en faire davantage. Et en même temps, je pense qu'il faut profiter des nouvelles technologies, de nouveaux développements, de la connectivité des gens aujourd'hui pour tester, pour aussi accélérer une assistance humanitaire qui profite des nouvelles technologies, de nouvelles formules, de la miniaturisation de certains instruments, des transferts en cash et de toutes les nouvelles formes d'activité humanitaire.
Vous avez plusieurs fois rappelé l'importance de la neutralité, de l'impartialité du Comité international de la Croix-Rouge. C'est d'autant plus important aujourd'hui ou ça, pas forcément ?
Moi, je pense que c'est d'autant plus important qu'on constate une politisation de la sphère humanitaire, de la sphère des conflits, hein, une fragmentation de plus en plus importante. Et en fin de compte, le CICR reste convaincu que pour contrer cette situation, il faut créer un espace humanitaire qui peut être consensuel, et on peut être que consensuel si on est crédiblement neutre et impartial. Et je pense ces valeurs qui nous ont accompagnés pendant 154 ans de notre existence reste extrêmement pertinent aujourd'hui, peut-être encore plus, alors que la situation sur le terrain est devenue plus compliquée.
Votre plus grande frustration durant vos années à la présidence du CICR ?
C'est pas tellement une frustration par rapport aux activités du CICR, c'est plutôt une frustration par rapport à l'incapacité des pouvoirs politiques de trouver des solutions politiques aux conflits. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte, c'est ce qui serait important, c'est de reconnaître l'inacceptabilité de nombre de victimes, de difficultés humanitaires auxquelles on est confronté, et de tirer de là la leçon qu'il faut des compromis politiques. Et je vois très peu de volonté, très peu d'énergie sur les solutions politiques. Depuis 7 ans, on négocie sur une solution en Syrie. Il y a très peu vraiment d'utilisation de pouvoir politique, de trouver des solutions politiques qui, à la fin, sont ce qui compte et ce dont je reste sur ma faim.
Par rapport à ce bilan, finalement, ce constat, comment vous voyez les 10 prochaines années?
Difficile à dire quand, quelque part, on arrive à briser cette dynamique du chaque mois plus et chaque mois pire. Et je pense qu'il faut une conscientisation des acteurs sur le terrain. Il faut un respect du droit international humanitaire plus conséquent. Il faut de l'influence politique pour faire respecter ce droit. Et je pense à ce moment, je peux espérer qu'il y a une diminution du niveau de violence, et peut-être cela prépare aussi le terrain pour des solutions plus conséquentes. Pour le moment, très franchement, je ne vois pas, et c'est ce qui nous préoccupe.
Peter Maurer, le président du Comité international de la Croix-Rouge, s'exprimait. Il était à Delémont hier de passage, car invité du Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur. Il s'est notamment, dans l'après-midi, exprimé face à des étudiants jurassiens et balois. Et le soir, il a tenu une conférence publique à Delémont.
Place publique.
Et dans cette troisième partie de Place publique, nous allons en apprendre un peu plus sur une autre personnalité suisse. Adolphe Ogi était également de passage à Delémont hier. L'ancien conseiller fédéral était invité par la Société de gestion des ressources humaines HR Jurabienne, ainsi que la Haute École Arc. À cette occasion, Adolphe Ogi a tenu une conférence intitulée « Être un bon leader, c'est ». Qui d'autre que le natif de Kangersteg pour nous en parler? Lui qui a eu l'adhésion de millions de Suisses pour un projet de plusieurs milliards de francs, à savoir une nouvelle transversale ferroviaire alpine. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon leader? On écoute Adolphe Ogi.
Il y a 4 choses qui sont très très importantes. Premièrement, l'être humain. Si vous êtes un leader, vous avez toujours affaire à des êtres humains. Il faut les respecter, il faut savoir écouter, il faut leur donner l'impression qu'on les prenne au sérieux. Mais à un moment donné, il faut dire, voilà, ça c'est notre stratégie, ça c'est notre voie. Deuxièmement, la chose très importante, c'est la mission. Il faut toujours répéter la mission. Parce que la mission, s'il n'est pas comprise par vos collaboratrices et collaborateurs, alors, vous avez quelques problèmes. Le troisième point, c'est le leadership. Le leadership, donc, l'idée de conduite. Et surtout, comme conseiller fédéral, il faut, dès le premier jour, pratiquement, il faut tout d'abord dire qui est le chef. Et deuxièmement, il faut toujours répéter la mission. Et si vous ne le faites pas dès le commencement, quand vous entrez en fonction, dans 2-3 mois, c'est l'administration qui est tellement forte, c'est elle qui dirigera. Et vous, comme conseiller fédéral, par exemple, vous avez beaucoup de problèmes. Et le quatrième point qui est de toute grande importance, c'est la communication. Et là, je parle de la communication vis-à-vis de l'extérieur. Naturellement, c'est très important comment je communique, quand je communique, où je communique, peut-être devant un tunnel avec un sapin pour toucher le cœur, ou bien je laisse communiquer et... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la communication vis-à-vis de l'intérieur. Vis-à-vis de l'intérieur, communication est une sorte de motivation. Si vous ne communiquez pas vis-à-vis de l'intérieur, vos gens ne sont pas motivés. Voilà, ça c'est les 4 points très importants si vous voulez être un leader.
On va revenir sur ces notions, Adolphe Ogi. Il y a dans le leadership quelque chose de la personnalité. On retient de votre passage au Conseil fédéral ce mantra que tout le monde répète quand on vous voit, ce mot formidable, cette espèce de refrain qui nous invite à l'optimisme. L'optimisme, par exemple, est-ce que c'est une valeur d'un leader?
Optimisme égale volonté, envie de faire bien, de vouloir gagner avec la Suisse. Par exemple, je voulais réaliser les N-Elfants. J'aurais pu dire...
Les transversales alpines.
Oui, l'éléphant. J'aurais pu dire, après M. Spuller, conseiller fédéral, dans les années 60, ensuite M. Bonvin, ensuite M. Richard, ensuite M. Knecki, ensuite M. Schlumpf. Ils ont fait, c'est pas négatif, mais que des commissions, que des analyses, que des variantes. Et tout à coup vient ce hockey, ce jeune hockey, un peu sportif, et qui dit, maintenant, il y a une opportunité, une fenêtre qui est ouverte. Maintenant, il faut aller très vite. Il faut proposer en même temps le Gotthard et le Lötschberg, comme transversal. Alors, notamment le ministre des Finances, le grand argentier, il était fou de rage, on peut le dire.
Adolphe Ogier, est-ce que c'est au Conseil fédéral que vous êtes devenu un leader, ou est-ce que vous avez souvenir, dans votre enfance, peut-être votre adolescence, d'un moment où vous avez réalisé une expérience, vous avez réalisé que vous étiez un leader?
Tout le monde devrait faire une analyse de sa personnalité et se demander qui je suis, quelle capacité j'ai, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Alors, quand j'ai fait l'analyse Togi, je l'ai fait après l'école sous-officier à Lausanne, après le paiement des galons.
À Isone ou à Lausanne?
À Isone. Les grenadiers sont à Isone, ce sont les durs. Alors là, j'ai dit, si j'ai la chance d'accepter un mandat, je ne peux pas devenir conseiller fédéral, je ne peux pas devenir conseiller d'État bernois, je ne peux pas devenir directeur de la BLS, je ne peux pas devenir directeur des CFF, mais si je ressens une mission, un mandat, là, je veux être le chef. Et où j'ai fait mon expérience, l'analyse, Togi, quand j'étais directeur de la Fédération Suisse de Ski, responsable pour l'équipe Suisse de Ski, là j'ai dû mener, j'ai dû prendre des décisions.
C'est votre école de leadership?
Le commencement, oui, le commencement. Et après, naturellement, j'ai continué. Après, j'étais directeur général de l'Intersport. Et après, j'étais quand même au militaire, j'étais major.
L'armée, le sport, la discipline sportive, ce sont
l'armée
de...
était...
Est-ce que c'est de bonnes salles de classe pour apprendre à être un leader?
L'armée, oui. L'armée était, si vous voulez, vous savez, je ne suis pas universitaire, mais l'armée était l'université d'Ogi. Et là, j'ai aussi pu voir, par exemple, quand j'ai donné des ordres, j'ai pu voir est-ce que les soldats ont compris ou pas. J'ai vu l'exécution de mes ordres. Voilà. Alors là, j'ai pris l'expérience et j'ai pu me tester. Est-ce que tu es vraiment un leader ou bien tu n'es pas?
Vous avez côtoyé des leaders au niveau international. Vous avez évidemment côtoyé de près Kofi Annan à l'ONU. Quels sont les leaders qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé encore à progresser?
Maintenant, je dis peut-être quelque chose. Les leaders, ce sont souvent des intellectuels. Mais ce n'est pas les réalisateurs. Souvent, ce n'est pas des réalisateurs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, moi, naturellement, j'ai toujours regardé. J'ai regardé comment fonctionne, par exemple, Clinton, comment fonctionne Kofi Annan, comment fonctionne Poutine, comment fonctionne, par exemple, le président de l'Italie, etc. Moi, je les ai plus ou moins rencontrés, tout le monde, aussi Mitterrand, etc. Mitterrand était très intelligent, connaissait l'histoire, mais ce n'était pas un meneur de jeu. C'est pas négatif, c'est très positif. Et moi, j'ai essayé d'apprendre et de prendre quelque chose de Mitterrand, de Clinton, de Blair et de Kofi Annan.
Qu'est-ce que vous avez pris, par exemple, de Mitterrand, par exemple?
La façon d'analyser, la façon de faire la politique, la façon de communiquer, surtout quand j'ai toujours regardé ses interviews qu'il donnait dans le jardin de l'Élysée et comment il a joué avec les journalistes.
Vous vous êtes inspiré des leaders mondiaux. Vous les avez sans doute aussi inspirés. Qu'est-ce que vous leur avez appris?
Est-ce que je les ai inspirés? Si, je l'ai fait, alors je suis très content. Moi, je les ai pris à Kandersteg. Ou quand j'ai voulu quelque chose, par exemple, le ministre français, je savais qu'il était un excellent skieur. J'ai dit, viens avec les skis, rendez-vous à Genève. Et après, en hélicoptère, on est allé à Zermatt. On a fait du ski, et vraiment du ski. On a fait quelques descentes, il a été fatigué. Le soir, je pouvais avoir tout ce que je voulais de la France.
Mais qu'est-ce qui vous semble le plus important à retenir du leadership, leadership dans les entreprises, pas forcément au Conseil fédéral?
Leadership, c'est une passion. Et il faut tout de suite sentir qu'il y croit. Ce qu'il dit, il y croit. Le leadership, ça veut dire que de temps en temps, on dit « je veux ». Même aux généraux, quand j'étais au département militaire, j'ai dit « je veux ».
Et vous pensez qu'en 2017, ce genre de volonté très ferme, décisive, fonctionne encore? On est à l'époque collaborative, où tout le monde doit se consulter, où on n'a pas forcément envie de dire un mot plus haut que l'autre. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que la société a encore besoin de ces leaders qui décident en disant « je veux » ?
Moi, je poserai la question, si vous n'êtes pas un leader, vous n'arrivez pas à être dans des fonctions comme conseil fédéral, comme directeur à la Fédération Suisse de Ski ou comme directeur général de l'Intersport. Même aujourd'hui, dans le temps des repos, il faut être un leader. Il faut, dernièrement, j'ai demandé le leader, l'entrepreneur le plus important de l'Inde. Pourquoi vous avez un tel succès? Il m'a dit, it's easy. C'est très facile. Un mot clé. Servir. On doit aussi sentir, tous les collaboratrices et collaborateurs doivent sentir que moi, aussi Ogi, je suis uniquement un serviteur pour la cause.
On a l'impression, Adolphe Ogi, qu'aujourd'hui, être un leader, c'est être un mouton à cinq pattes. On demande beaucoup de choses à un leader. Par exemple, on lui demande d'être compréhensif, d'être créatif, d'être rigoureux, de faire preuve d'autorité, d'éthique, d'être drôle, d'être sensible, décisif. Est-ce que finalement, on n'attend pas trop de choses d'un leader? Et dans toutes ses valeurs ou ses qualités, laquelle est la plus importante?
Tous les mots que vous avez mentionnés sont très importants, mais il faut savoir où il faut les faire passer. Ça, c'est important. Ici, peut-être, ici, il y a des éléments, alors peut-être il faut savoir à qui je parle. C'est très important. Quand je suis président de la Confédération, et quand je parle, je dois toujours savoir à qui je parle. Quand je suis directeur à la Fédération Suisse de Ski et responsable pour l'équipe Suisse de Ski, là, il faut trouver peut-être d'autres mots. Mais partout, il faut être leader. Si vous ne vous imposez pas, c'est peut-être pas le bon nom. Si vous ne vous imposez pas comme leader, vous avez déjà perdu.
Adolphe Ogi répondait à Gabriel Devec, l'ancien conseiller fédéral, était de passage hier à Delémont pour tenir une conférence intitulée « Être un leader, c'est ». Voilà, c'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités, merci à Sandra Gelin pour la réalisation. Vous pourrez retrouver cette émission en tout temps sur la page de l'émission, mais aussi en podcast sur nos applications RGB, RTN et RFJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les informations de 19h présentées par Émilie Moumentaler. Très belle soirée.
Place Publique.